Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h17, petit déjeuner politique ce matin, c'est Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie.
Bonjour Brigitte Bourguignon.
Bonjour.
Le Covid et les EHPAD, la vaccination pour les plus âgés, le pass vaccinal, parce que vous avez veillé, si je puis dire, très tard au Sénat sur le pass vaccinal, on va en parler dans un instant. Mais avant ça aussi, la grève quand même dans l'éducation nationale aujourd'hui, une grève qui semble dirigée contre Jean-Michel Blanquer à cause d'une petite pagaille dans les protocoles. Est-ce que vous comprenez, premièrement, ce mouvement de colère ?
Je pense que quand on est dans un mouvement de crispation, il faut toujours entendre, il faut toujours écouter, il faut reprendre le dialogue. Ce mouvement de crispation, c'est dû aussi à une fatigue de tout le monde, parce que, évidemment, nous sommes dans des moments contraignants pour tout le monde, dans toutes nos façons d'agir, et dans les écoles en particulier, avec un public jeune, et donc forcément des parents d'élèves inquiets. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on reprenne la stratégie en son ensemble. Mmh. La stratégie, c'est de laisser les écoles ouvertes, et c'est ce que nous souhaitons, et c'est ce que les Français d'ailleurs souhaitent, et c'est une mesure d'autant plus social d'ailleurs qu'il faut souvent rappeler que lors de la première vague, on a subi beaucoup de dégâts sur des enfants et ça a été constaté par beaucoup de pédiatres et de travailleurs sociaux.
Non, mais
il faut maintenir les écoles ouvertes.
Alors les enseignants disent pourquoi pas, mais il faut peut-être qu'on nous protège un petit peu mieux également et puis qu'on nous informe un peu mieux et pas dans la presse à la veille de la rentrée, par exemple à 18h par mail sur le protocole quand même.
Alors je pense qu'il a fallu s'adapter en attendant l'avis de l'autorité sanitaire qui a été donné en son temps, et le ministre en a informé l'éducation nationale suffisamment tôt. Évidemment, c'est toujours trop tard lorsqu'on doit s'adapter. Et je comprends, vous savez, c'est pas simple. Moi, j'étais allée voir les réouvertures d'écoles après la première crise. C'était déjà pas simple à organiser. Donc aujourd'hui, on s'adapte au fil du temps et au fil de la variation de ce virus. Les protocoles sont ceux qui ont bougé cette fois, assouplis en deuxième semaine parce qu'on a entendu que c'était quand même trop contraignant. Et donc voilà, maintenant, il va falloir qu'on s'adapte à ces nouvelles mesures.
Oui, c'est vrai, mais Brigitte Bourguignon, ça retombe un petit peu sur Jean-Michel Blanquer, qui visiblement est un peu sous tension. Hier, ça a été vif, il y a eu de l'accrochage en marge du Conseil des ministres. Vous avez assisté justement, vous avez vu cette tension, elle est palpable chez le ministre de l'Éducation ?
Alors, dans une équipe, il y a quelquefois des tensions. Oui. Je pense que ce n'est pas ce qui intéresse les Français. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse équipe, qu'on soit collectif, et que dans ce moment de tension, justement, eh bien, on fasse groupe pour expliquer.
C'est ce qu'a expliqué le chef de l'État, Emmanuel Macron, hier.
Bien sûr, il faut continuer d'abord à faire preuve de pédagogie. Et quand on parle d'éducation nationale, c'est le bon terme, avec les familles et surtout avec les enseignants, que le dialogue reprenne très vite.
Certains disent que c'est un peu le bouc émissaire, Jean-Michel Blanquer.
Jean-Michel Blanquer, c'est le ministre qui sera resté le plus longtemps. Je fais deux mandatures où nous avions des ministres de l'éducation qui changeaient tous les ans ou tous les deux ans. On a changé 5 fois de ministre de l'Éducation sous la mandature précédente. Donc je crois qu'il faut saluer plutôt la constance et la pérennité de son action.
Oui, Brigitte Bourguignon, alors passons des écoles aux EHPAD, puisque vous avez en charge en fait l'autonomie et les personnes âgées. Quelle est la situation aujourd'hui justement dans les EHPAD face à Omicron ?
Alors ce qu'on peut relever, c'est que d'abord dans les EHPAD sont les premiers bénéficiaires de la vaccination dès le début de la vaccination. Au départ, on a été critiqué sur le fait qu'on choisissait plutôt ce public, alors que c'était celui qui payait le plus lourd tribut, parce que lui, ce public, lorsqu'il a atteint la maladie, ça, évidemment, ils ont peu de chances d'en réchapper. Donc, on a commencé par eux, avec le consentement souhaité. Aujourd'hui, 1 sur 7 EHPAD est touché en France par un cluster. Et quand on dit cluster, c'est 3 cas. Donc on peut se dire...
Cluster, c'est à partir de 3 cas.
Voilà, c'est 3 cas
positifs, quoi.
Et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu d'onde de choc, si j'ose dire, même avec le variant Omicron. Oui. Même si, bien sûr, il y a de nouveau un peu plus de cas positifs. Mais la vaccination fait tout son effet et montre bien l'efficience, d'ailleurs, de cette vaccination, puisque nous avons... À la même époque de l'année dernière, deuxième vague, on avait 1000 morts dans une semaine. Aujourd'hui, on a 100. Donc vous voyez bien que ça a une chute vraiment spectaculaire et c'est à porter au crédit de la vaccination.
Alors, un foyer, un EHPAD sur 7 touché par un foyer en fait, d'infection aujourd'hui, Omicron. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, ça veut dire qu'après, ces EHPAD sont fermés, pas accessibles ou pas ? À partir du moment où il y a justement un cluster.
Alors, on a veillé à ce que les établissements ne se referment pas en majeure partie du pays. Bien sûr, quand il y a un cas positif, on l'isole et on attend quelques quelques jours que, comme pour nous d'ailleurs, moi j'ai souhaité que le droit commun s'applique dans ces établissements parce que ce sont des citoyens âgés, certes, mais qui ont des droits. Et donc que les protocoles qu'on s'applique dans les établissements qui reçoivent du public en général soient les mêmes. Et quand on a un cas positif, on isole, on teste quelques jours après pour voir s'il est toujours positif. Voilà comment on agit. Certains EHPAD ont fermé par endroit, je ne le nie pas. Nous demandons à chaque fois à ce que ce soit proportionné et très ponctuel.
Il n'y a pas une règle en disant il y a des cas positifs, on ferme.
Non, parce qu'on s'était arrangé même au moment de Noël, là, il y a quelques semaines, pour envoyer ces nouvelles consignes qui ne sont pas des nouvelles d'ailleurs, elles sont appliquées depuis le mois d'août. Moi j'ai toujours veillé depuis mon arrivée, parce que je connaissais les dégâts de la première crise sanitaire où des gens ont plongé, vraiment, parce qu'ils n'avaient plus du tout de visite, à ce que l'on protège, mais qu'on n'isole pas. Et que lorsqu'on isole, ça doit être vraiment l'exception, et que la généralité, c'est d'être protégé, parce qu'on nous reprocherait aussi de ne pas protéger suffisamment.
Oui, alors,
il faut trouver le bon équilibre.
Oui, vous avez évoqué la vaccination tout à l'heure. Dans les EHPAD, quel est ce taux, alors, précisément ? Alors,
on est à 97% de taux de vaccination chez les personnes âgées.
Et chez le personnel soignant ?
Et chez le personnel aussi. Alors, on nous avait promis aussi un départ massif du personnel qui refuserait la vaccination. Moi, je crois qu'on a devant nous un personnel qui a fait montre de responsabilité. Chacun s'est fait vacciner. Il y a eu très peu de suspensions. 0,3% sur le territoire national dans ce domaine.
Oui, alors venons au pass vaccinal. Est-ce qu'il faudra être muni, d'ailleurs, d'un pass vaccinal pour rendre visite dans les EHPAD ?
Alors, on avait demandé le pass sanitaire pour se rendre visite dans ces EHPAD. Pour l'instant, le pass vaccinal sera aussi appliqué pour que les personnes puissent
Ce sera obligatoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendra et qui n'aura pas son pass vaccinal à jour ne pourra pas rentrer dans un EHPAD.
Il faut toujours garder des proportions là aussi, parce qu'on tiendra compte des situations, vous le savez, on nous a beaucoup parlé par exemple de fin de vie ou de motifs d'urgence pour venir voir une personne. Il est hors de question qu'on interdise une personne de se rendre au chevet d'une personne âgée.
Donc ce ne sera pas obligatoire pour rentrer dans un EHPAD en fonction des circonstances.
Il faudra toujours démontrer sa situation sanitaire, les tests dans ce cas-là, mais le pass vaccinal qui est demandé dans tous les établissements recevants. Bien sûr.
Voilà. Oui, sinon.
Pour les cas que je viens d'évoquer, lorsque, bien sûr, on ne veut plus que des personnes n'aient pas le contact avec la famille lorsqu'il y a une situation d'urgence et une fin de vie programmée.
Oui, il sera recommandé le pass vaccinal, mais pas obligatoire.
C'est
alors,
ça.
Où en est-on justement du pass vaccinal ? Puisque vous étiez cette nuit sur les bancs du Sénat pour prendre le relais d'Olivier Véran. Ça a été adopté et maintenant il va y avoir les sénateurs et les commissions mixtes paritaires donc pour essayer de s'entendre sur un texte. Oui, pour l'instant, là où ça bloque, je crois, c'est sur la pression dans les hôpitaux. C'est-à-dire que ce texte est soumis à une condition de 10 000 hospitalisations. C'est ce qu'ont retenu les sénateurs. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ?
Non, parce que ce serait difficile. C'est très compliqué d'avoir un taux d'incidence qui joue pour un pass vaccinal à cet endroit-là, et puis à un autre endroit, on ferait autrement. C'est comme le port du masque, vous ne comprenez pas que d'une rue à l'autre, on vous impose un masque ou pas. Donc il faut quand même une règle générale, uniforme sur le territoire. Et en ce moment, avec cette circulation de virus, oui, il faut lutter, et le pass vaccinal est la meilleure arme. Donc ça n'aurait pas de sens si on tenait compte simplement du taux
d'incidence. Oui, mais il faut mettre des conditions, quoi. On ne va pas mettre un pass vaccinal ad vitam aeternam.
Alors, en fait, on est passé du pass sanitaire qui avait eu un effet sur la primo-vaccination. Il y a des gens qui se sont tournés vers la vaccination enfin. Et puis, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le recours aux tests permettait d'exonérer beaucoup de situations par confort, quelquefois. Ouais. Donc, on est passé aux tests qui ne seront plus gratuits pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, à l'idée de ce pass vaccinal que d'autres pays appliquent depuis longtemps. Et pourquoi un pass vaccinal ? Parce que là, il faut vraiment avoir un schéma vaccinal complet. C'est ça qui différencie du pass sanitaire.
Il y aura quand même une condition liée à la pression dans les hôpitaux ou pas ?
Non, il n'y aura pas de... Enfin, c'est ce que demandent les sénateurs, c'est ce qu'ont voté les sénateurs. Ça va être un point à négocier en commission mixte paritaire. Moi, je ne m'avance pas
sur... Donc pas les 10 000, mais peut-être 20 000, 30 000
Je m'avance pas
sur les pistes. Ça pourrait être quand même une condition ou pas ?
C'est une condition qu'imposent les sénateurs. Oui. C'est une condition que n'avaient pas imposée les parlementaires de l'Assemblée nationale. Donc on va voir sur quels critères ils vont être d'accord.
Oui, Brigitte Bourguignon, un dernier point sur la vaccination. Combien de personnes âgées, en dehors des EHPAD, ne sont pas vaccinées aujourd'hui en France ? On dit 500 000,
à peu près
plus.
500 000, non pas plus, plutôt moins, mais à peu près 500 000. On arrive dans le... dans le plus compliqué du sujet à gérer, parce que ce sont des personnes qui librement sont chez elles, des personnes qui quelquefois ont plus de 80 ans, parce que les 70-79 ans sont à 97% vaccinés, et ça, ça va. Les plus de 80 qui ne sont pas vaccinés à ce jour sont souvent des personnes qui ont presque choisi l'isolement social. Et ça, c'est très compliqué pour nous.
Qui vous échappe, en quelque
qui
sorte.
Qui nous échappe
mais
pas,
alors,
parce
que... Mais le aller vers, je croyais que voilà, on devait y aller frapper à la porte. On peut les recenser, non?
On en est là. Ouais. C'est-à-dire que l'aller vers, c'est, oui, aller vers la personne. On va se servir beaucoup des aides à domicile qui, elles, entrent dans les foyers, qui, quelquefois, ont plus d'écoute encore que d'autres. Les médecins traitants, les infirmiers libéraux ont parfois l'écoute aussi. Et donc, on va... encore continuer à accentuer ce mouvement de l'aller vers. L'aller vers, c'est pointu. On a aujourd'hui, dans toutes les collectivités, des listes de personnes isolées, parfaitement identifiées, qui sont parfois réfractaires.
Mais vous ne pouvez pas les obliger, quoi.
On ne peut pas les obliger, l'obligation vaccinale n'est pas...
Est-ce que là, vous regrettez qu'il n'y ait pas une obligation vaccinale pour ces personnes âgées ?
Alors, non, parce que je continue de penser que la contrainte n'y changerait rien. Souvent, il y a soit une peur, soit une renonciation à une vie sociale, tout simplement. Et nous, on veut plutôt les persuader, à travers les mesures que l'on prend contre l'isolement social, de venir à la vaccination.
Oui, on parle de plus en plus de quatrième dose. Est-ce qu'il y aura une quatrième dose pour les personnes âgées ?
Alors, pour l'instant, on attend les avis d'autorités scientifiques. Rien n'est fermé. Ce qu'on sait, c'est que si on décidait que le vaccin n'est plus assez efficient au bout de 6 mois pour les personnes les plus âgées, qui sont les plus exposées, alors peut-être faudrait-il un rappel. Je dis un rappel, c'est mieux qu'une quatrième dose, ça se comprend mieux pour le commun des mortels. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que pour l'instant, rien n'est arrêté.
Une réponse prochainement
assez rapidement, on regarde ce qui se passe ailleurs. Par exemple, au Danemark, ils vont commencer. Il n'y a pas de blocage chez nous, y a pas... les vaccins on les a, les rappels on les fera donc s'il le faut, il faut juste attendre de savoir si ça doit être efficient, s'il y en a besoin vraiment. Donc on va regarder l'évolution de tout cela et puis ce que nous disent surtout les autorités scientifiques.
Oui, un dernier mot Brigitte Bourguignon, vous, politique cette fois, vous venez de la famille socialiste, quand vous regardez le PS aujourd'hui tiraillé entre Anne Hidalgo, j'y vais pas, une primaire, pas de primaire et Christiane Taubira, quel est votre regard ?
Ça m'attriste parce que je pense qu'on est dans un casting et que c'est pas le casting qui intéresse les Français. Que,
c'est une personne quand même qui incarne, quoi.
Ah mais moi je parle pas de la personnalité en elle-même, je dis simplement que les débats qu'on a en ce moment ne sont pas des débats sémantiques, ni même philosophiques, ni même sur une ligne. C'est des débats j'y vais pas, j'en ai peut-être envie, pas vraiment envie. Ça c'est triste pour les militants, que je connais bien. Qui sont perdus, qui se retrouvent souvent avec nous dans la social-démocratie finalement, d'autres qui ont une position plus radicale, qui ne savent plus non plus vers qui se tourner. Moi, je trouve dommage qu'on en soit là aujourd'hui, sur la gauche en général d'ailleurs, parce qu'au-delà des seuls rangs des socialistes, il n'y a pas eu d'accord trouvé avec les écologistes.
Si vous étiez chez les socialistes aujourd'hui, vous diriez en fait à tous ces candidats de gauche, on se retrouve autour d'une primaire ou pas ? C'est trop tard ou,
je pense que la primaire, il fallait la faire avant. Ouais. Il fallait la faire peut-être entre eux d'ailleurs, parce que les primaires citoyennes ont tué les partis, moi je le crois sincèrement. Et aujourd'hui, je crois qu'ils, s'ils veulent retrouver une force de conviction et d'attractivité pour les autres, eh bien, il faut qu'ils se retrouvent autour d'une table une fois pour toutes et que les différences, parfois, elles peuvent être atténuées.
Et mais c'est encore du possible, ça, Christiane Taubira et Anne Hidalgo ?
L'histoire le dira. Pour l'instant, c'est mal parti. C'est mal parti parce que c'est tard.
Merci Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'autonomie, d'avoir été l'invitée ce matin de Sud Radio.
8h31, dans un instant, la revue de presse jusqu'à, juste après le journal.